France Info. France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernat.
Et bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, tels des trappeurs à la recherche de bêtes à fourrure, ils ont affronté des conditions hostiles pour venir jusqu'à la maison de la radio, se réchauffer aux flammes de l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Louis Osalter, bonsoir,
bonsoir
de
Mathieu.
Marianne, également le député Les Républicains de Lyon, Guillaume Larrivé, bonsoir.
Bonsoir.
Virginie Le Petit, bonsoir,
bonsoir,
de Courrier International. Et Rodrigue Tchoual, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat et cofondateur du Cercle EB. C'est quoi le Cercle EB ?
Le Cercle EB, c'est un cercle de réflexion qui vise à promouvoir l'initiative des jeunes.
Très bien, c'est un vaste sujet.
Voilà. Très important sujet.
Bien sûr. Et ce soir, l'Europe version Macron à l'épreuve. Les Républicains, leur décompte. Salon de l'agriculture, le gouvernement tente de moissonner. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. La tribune n'était-elle pas trop petite en déplacement à Lille pour présenter ce matin son plan de prévention de la radicalisation? Édouard Philippe n'était pas venu seul. 10 ministres l'accompagnaient et la photo de groupe les montre les uns sur les autres, un peu comme un Jenga, vous en enlevez un, ils tombent tous en fait. Le gouvernement a souhaité faire bloc afin de montrer que son plan anti-radicalisation concerne tous les domaines. Meilleure évaluation des détenus radicalisés, plus de place dans les quartiers à l'isolement dans les prisons, création de 3 centres de jour, meilleur contrôle des écoles hors contrat, lutte sur les réseaux sociaux, prise en charge des revenants mineurs, en tout 60 mesures, mais pour quelle efficacité? En fait, il s'agirait d'un changement d'optique selon le spécialiste de la question, le journaliste Wassim Nasser.
On remarque aussi qu'on ne parle plus de déradicalisation. On sait que déradicalisation, c'est une lubie de l'esprit. Et aujourd'hui, on parle de désengagement.
Donc on prend acte de l'échec, hein, de la tentative justement de déradicalisation.
Bien sûr, les grands actes, des échecs et des erreurs commises, en tout cas pendant depuis 2014 au moins. Et donc on parle aujourd'hui de désengagement, donc désengagement de la violence. Parce qu'ils sont conscients, le gouvernement est conscient qu'on peut pas changer la vie de quelqu'un comme ça, pilule rouge, on devient républicain et anti-djihadiste, et pilule bleue, on le reste. Non, il y a des parcours personnels, donc les personnes qui choisissent d'adhérer à cette idéologie peuvent très bien faire le chemin inverse.
Journaliste Wassim Nasser, aujourd'hui sur France 24. Guillaume Larrivé, ça vous satisfait les propositions aujourd'hui proposées par Édouard Philippe, présentées par Édouard Philippe?
Il y a un élément qui me surprend un peu, c'est qu'on n'ose pas exactement dire de quoi on parle. On parle de la radicalisation de quoi? On ne parle pas de la radicalisation des moines bouddhistes, on ne parle pas de la radicalisation des journalistes, on ne parle pas de la radicalisation d'artistes, on parle de la radicalisation d'islamistes. En réalité, c'est ça le cœur du sujet. Je suis un peu surpris qu'on n'aborde pas la question en disant clairement de quoi on parle. Ensuite, j'ai essayé de regarder les différentes mesures. Je trouve que certaines sont intéressantes, notamment s'agissant des prisons. Je crois qu'on commence peut-être à sortir du déni. Il se trouve qu'il y a près de 4 ans maintenant, j'avais présenté à l'Assemblée nationale un premier rapport sur la situation dans les prisons et sur la radicalisation islamiste dans les prisons. À l'époque, c'était Christiane Taubira qui m'avait envoyé sur les roses, si j'ose dire, vraiment dans le déni absolu. Ensuite, on a eu Jean-Jacques Urvoas qui a un petit peu regardé le sujet il y a 2 ans. Et là, je crois, si je lis bien ce plan, qu'on va enfin envisager d'avoir des lieux étanches où on pourra isoler un certain nombre de détenus radicalisés islamistes. Alors, maintenant, j'attends de voir, et ce sera notre job à nous à l'Assemblée nationale, d'évaluer les effets concrets de ce plan contre la radicalisation islamiste.
Bien sûr. Alors, Rodrigue Tchoual, en 2014, il y avait eu 22 mesures sur ce sujet. En 2016, 80 mesures. Là, il y en a 60. Jusqu'à présent, on le voit bien, s'il y a des nouveaux plans, c'est que ça ne marche pas. Est-ce que là, vous avez vu des éléments qui pouvaient être plus intéressants, des pistes, des nouvelles pistes non explorées jusqu'à présent?
Je pense tout d'abord que c'est un problème. Le problème de la radicalisation, c'est un problème qui est assez complexe. Oui. C'est pas un problème qu'on peut traiter forcément facilement. Il y a eu, comme vous l'avez signalé, en 2014 et en 2016, des mesures qui avaient été prises. Mais, et ça a été rappelé dans l'intervention que vous venez de passer, c'est le paradigme qui a changé à travers celles qui sont présentées aujourd'hui. La logique n'est plus de lutter contre la radicalisation en déradicalisant, parce qu'on s'est bien rendu compte que c'était compliqué de pouvoir avoir une telle ambition. L'objectif, c'est plutôt de prévenir. Et dans ce sens, je pense que c'est assez opportun. L'avenir nous dira si effectivement c'est totalement efficace. Moi, il y a au moins deux mesures que je trouve assez importantes. Premièrement, celle qui a été rappelée sur les prisons avec les 1500 places, avec le confinement et le fait de dire... C'est un changement de logique par rapport à ce qu'il y avait avant, parce qu'avant, c'était les
dispersés, mais avant, exactement. C'était regroupé aussi. Donc, avant, on change tout le temps, en fait. C'est ça aussi.
On tâtonne, mais on voit ce qui marche. Et l'autre mesure aussi, c'est dans l'éducation, notamment, et aussi la formation des éducateurs sportifs, parce qu'ils sont en contact avec les jeunes, ça, c'est important.
Alors, Virginie Petit, est-ce que finalement, la France, c'est vrai, on a du mal avec les plans anti-radicalisation, est-ce que c'est la même chose un peu partout en Europe, on a du mal, ou certains pays ont finalement trouvé un embryon de solution?
Alors, les pays travaillent beaucoup sur le retour, en fait, des djihadistes, c'est quand même la grande préoccupation du moment. Ils sont tous dans le même constat, et ça c'est vrai des États-Unis à l'Arabie Saoudite, et le constat qu'a fait la France aussi, c'est-à-dire que la déradicalisation ne marche pas, quels que soient les moyens qui ont été employés. Il y a eu des choses assez différentes d'un pays à l'autre. En Arabie Saoudite, je crois, c'est dans plusieurs pays du Moyen-Orient où il y a eu même des tentatives où on rémunérait ceux qui se déradicalisaient quand ils prêchaient la nouvelle bonne parole. Il y a eu pas mal de tentatives, et c'est effectivement un constat d'échec. Donc effectivement, maintenant, beaucoup de pays sont sur ce qu'est en train de mettre en place la France, c'est-à-dire identifier, contrôler, traiter ça. Moi, ça me fait penser quand même au traitement d'une épidémie. On est dans quelque chose, un cordon sanitaire, la prophylaxie. On est vraiment dans ces mesures-là, à mon sens.
Louis Alter, on est dans, certains disent, le tout répressif de nouveau. Enfin voilà, certains l'évoquent comme ça. Pour vous, est-ce que ils étaient attendus, bien sûr, aussi là-dessus, puisqu'on parle des sujets régaliens importants. Est-ce que là, il a réussi finalement, Édouard Philippe, son exercice de proposition?
Pour l'instant, non, parce que des propositions, il en avait déjà eu. C'est le troisième plan en 4 ans. C'est ça dit l'ampleur de l'échec, mais à la fois sous le gouvernement précédent et sous ce gouvernement. Donc on a à nouveau une batterie de mesures. Mais le problème, je pense qu'on paye une erreur d'analyse qui remonte au début, finalement, des phénomènes de radicalisation. En ayant utilisé ce mot valise de radicalisation, en fait, on peine à penser et à voir les multiples causes qu'il y a derrière. Il y a évidemment la propagation d'une idéologie islamiste qui est évidente. Il y a aussi des phénomènes de relégation, de misère sociale. Et puis, il y a la quête de sens. C'est-à-dire qu'il y a le désœuvrement de toute une jeunesse qui se jette dans les bras, qui se radicalise finalement, mettons ce terme entre guillemets, mais qui se radicalise par quête de sens dans nos sociétés. Et tout ça, c'est des enjeux qu'il faut prévenir. Et pour les prévenir, il faut s'attaquer à ces multiples formes. Et en ayant pris ce mot valise, radicalisation, en fait, on s'empêche d'attaquer les chantiers un par un. Et aujourd'hui, on se retrouve à faire des virages à 180 degrés. Je pense évidemment à la pénitentiaire où, effectivement, avant, on dispersait, maintenant, on va confiner. Est-ce que ça va marcher plus? On pense aussi à l'échec de ce fameux centre de déradicalisation
en
Indre-et-Loire. On tâtonne complètement, effectivement, et on est dans le brouillard.
On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h11. Et oui, Julie Smul.
Emmanuel Macron dit avoir bon espoir d'obtenir un cessez-le-feu au Conseil de sécurité de l'ONU. Vote repoussé plusieurs fois, prévu maintenant d'ici une vingtaine de minutes. Les Nations Unies se penchent sur la situation en Syrie, alors que la région rebelle de la Ghouta est sous les bombes du gouvernement pour le 6e jour de suite. Plus de 460 civils tués cette semaine. La Russie, alliée de Bachar al-Assad, menace d'utiliser son droit de veto. La France et l'Allemagne lui demandent d'approuver cette résolution. Deux attentats à la voiture piégée aujourd'hui à Mogadiscio. Attentats visant le palais présidentiel et un hôtel de la capitale somalienne. Au moins 18 morts et une vingtaine de blessés. Prévenir pour protéger, le mot d'ordre du nouveau plan de lutte contre la radicalisation islamiste présenté aujourd'hui par le Premier ministre. Une soixantaine de mesures annoncées, la création de 1500 places de prison pour les détenus radicalisés ou encore plus de contrôle dans les établissements scolaires hors contrat pour lutter contre l'embrigadement des élèves. Alors que le Salon de l'agriculture ouvre demain à Paris, notre sondage Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro révèle ce soir que 2/3 des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour défendre les agriculteurs. Parmi le millier de personnes interrogées, 88% ont une bonne opinion des agriculteurs. Pas de médaille aujourd'hui pour la France au JO de Pyeongchang. Déception en biathlon. Le relais masculin termine 5e. Une épreuve remportée par la Suède. La France compte toujours ce soir 15 médailles.
France Info.
20h, 21h, Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons donc du plan de prévention de la radicalisation présenté ce matin par Édouard Philippe et son gouvernement. Guillaume Larrivé, vous vouliez réagir
tout à l'heure. Oui, un mot sur l'école. Oui. Dans ce qu'annonce Édouard Philippe, il y a l'idée de contrôler plus ce qu'on appelle les écoles hors contrat.
Hors contrat, oui.
Il se trouve que je recevais hier à l'Assemblée nationale la présidente de la Fondation pour l'école qui s'appelle Anne Coffigné. Et je vous dis tout à l'antenne, je la connais depuis 15 ans, on a fait l'ENA ensemble, c'est une ancienne élève de l'école normale supérieure. C'est quelqu'un d'extrêmement solide qui a fait le choix de développer des écoles indépendantes. Alors, il y a parfois des écoles Montessori, il y a des écoles indépendantes. Bon. Il ne faudrait pas qu'en voulant contrôler des dérives d'écoles islamistes, on restreigne les libertés fondamentales de l'ensemble des Français. Oui. Il y a un texte de loi qui a été examiné par le Sénat, ça s'appelle la proposition de loi Gatel sur ces questions en ce moment. Il va bientôt revenir à l'Assemblée. Moi, je serai avec d'autres très attentifs à ce qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain.
Oui.
OK pour des contrôles, naturellement, mais attention aussi à préserver cette liberté constitutionnelle fondamentale qu'est la liberté d'enseignement. Il ne faudrait pas tout confondre en voulant aller, si j'ose dire, plus vite que la musique.
Alors, il y a un mot aussi, Louis Zalte, quand même dedans, c'est bien sûr les réseaux sociaux. Alors ça, on en parle depuis, malheureusement, depuis qu'on est confronté à cette vague de terrorisme. Les réseaux sociaux, donc, je cite le Premier ministre, sont invités à mettre en œuvre la possibilité d'un retrait en une heure de contenu illicite. Le Premier ministre a souligné que si la chose n'était pas faite dans les 3 mois, la France soutiendrait des mesures plus radicales. Est-ce que ça vous semble possible? On se souvient de Bernard Cazeneuve partant dans la Silicon Valley, essayant de convaincre Google, Facebook. Est-ce que finalement le combat, c'est là aussi?
Non, mais non seulement c'est très compliqué, mais je me rappelle avoir parlé dans votre émission, d'ailleurs dans Les Informés, d'une loi qui était passée en Allemagne, qui était plutôt une loi sur la, qui portait sur le sujet de liberté d'expression en réalité, qui obligeait les réseaux sociaux à enlever effectivement des contenus que eux-mêmes auraient jugés illicites et qui contreviendraient au droit. Cette loi, elle est passée en Allemagne à la fin de l'année dernière, et depuis, on en a constaté les effets pervers qui en fait conduisent à une surcensure des réseaux sociaux qui ne sont pas sûrs que ce contenu serait raciste, islamophobe, propagerait telle ou telle chose, mais qui du coup l'enlèvent par précaution pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Donc non seulement ce genre de mesure qui reste très vague, se heurte à ce genre de problème. Il y a également le fait de pouvoir tracer ces contenus et de pouvoir savoir d'où vient la propagande pour avoir des informations sur ces émetteurs. Et puis, il y a tout simplement le sujet des réseaux sociaux planétaires. C'est-à-dire que c'est pas la France, ni même l'Europe, parce que la Commission européenne, elle reste ce qu'elle est face au GAFA. C'est pas la France, ni même l'Europe qui va décréter ça immédiatement. J'ai trouvé que c'était quand même très très flou dans la formulation qui a été donnée par le Premier ministre, et c'était le cas de beaucoup de mesures, malheureusement.
C'est le cas, oui. Alors, Virginie Petit, quand on voit ça, en effet, oui, on va aller voir l'Europe. On va agir là-dessus. Bon, on a l'impression que d'un coup, ça y est, ça peut être fait. On se rend compte à quel point c'est là la difficulté, le combat. Il est comme il est aussi dans les médias, il est aussi sur les réseaux sociaux. Et on se rend compte que c'est une difficulté d'agir, presque impossible.
C'est impossible d'agir, en tout cas, tout seul à l'échelle d'un pays. Parce qu'effectivement, non seulement les réseaux sociaux sont planétaires, mais l'embrigadement djihadiste, lui aussi, est quelque chose qui est complètement international.
Bien sûr.
Donc, comment on peut agir à l'échelle d'un seul pays, c'est absolument impossible. Et le problème, effectivement, est que les politiques, les législations sont différentes. Donc, tant qu'il n'y a pas d'unité dans cette action, il y en a sur un certain nombre de sujets, mais pas sur l'action, en tout cas.
Ouais. Alors, un mot tout de même, Rodrigue Chouel, sur, en effet, ces centres qui vont ouvrir. Donc, je crois que c'est notamment Marseille, à Lille. On se souvient d'un centre, c'était celui de Pontourny, en Indre-et-Loire, le seul qui avait été d'ailleurs fermé en juillet dernier. C'est quoi? On retente l'expérience. Finalement, on se dit, on y va, on s'est peut-être trompé, donc on y retourne.
Non, pas totalement, parce qu'il y a une grande différence, et à mon sens, qui est fondamentale, c'est que dans ces nouveaux centres, ce seront des personnes sous main de justice. Donc, c'est plus des volontaires comme ce qu'on avait fait comme expérimentation la première fois, et c'était pour ça qu'on avait d'ailleurs vu les limites. C'est que assez rapidement, les personnes qui étaient supposément des volontaires intéressés par cette expérience ont disparu, en tout cas ont déserté assez rapidement. Donc là, ces différences sont des personnes sous main de justice, c'est-à-dire qui seront contraintes d'être intégrées dans ces centres-là. Donc l'efficacité, à mon sens, sera beaucoup plus forte dans cette configuration.
Guillaume Larrivé, ces centres, justement, après le précédent, où on avait vu que ça n'avait pas véritablement bien marché, l'approche différente, là, vous séduit?
Moi, j'ai fait 3 rapports sur ces questions, 2014, 2015, 2016, avec un administrateur de l'Assemblée, on est allé dans des établissements pénitentiaires et on a essayé aussi de regarder ce qui se faisait à l'étranger. J'ai quelques certitudes, mais aussi des interrogations. Mmh. La première certitude, c'est qu'il ne faut assurément pas disséminer des individus repérés comme islamistes radicaux, parce que ça a des effets de prolifération, d'embrigadement. Je pense que la dissémination, qui a été longtemps pratiquée, a été une faute très forte commise par différents gouvernements. Ça, c'est clair. Deuxièmement, je pense également, paradoxalement, mais enfin quand même, toujours, qu'il ne faut pas tous les regrouper dans un endroit ou dans deux, trois endroits au risque de créer ce qu'on appelle des katibas, c'est-à-dire des cellules de combat. Je pense plutôt que ce qu'il faut faire sont des choses intermédiaires. J'avais appelé ça les USAR, les unités spécialisées anti-radicalisation, avec un principe de double,
sous un principe de double, justice quand même,
de double étanchéité. Mmh. Très concrètement, ça veut dire qu'il faut réussir en réalité à les isoler par rapport aux autres détenus, mais aussi les isoler les uns des autres. Bon, et ça, c'est assez compliqué à mettre en œuvre, mais je crois vraiment que c'est nécessaire si on veut autant que possible freiner la propagation de l'idéologie djihadiste dans les prisons.
Et pourtant, voilà, là, on se dit en effet un contrôle judiciaire davantage accru, peut-être que sur ces centres, ça permet de travailler peut-être aussi différemment avec ces gens. Là, on voit par exemple qu'il va y avoir une réflexion, pardon, une création d'un comité scientifique pour comprendre aussi finalement pourquoi aussi voilà ces gens s'engagent et pourquoi ils sont prêts à détruire quand même comme ça un pays. C'est peut-être aussi intéressant une autre approche que purement carcérale.
Peut-être le faut-il. Il faut aussi être extrêmement réaliste s'agissant des détenus condamnés qui sont aujourd'hui condamnés en matière de terrorisme islamiste ou parfois condamnés dans des affaires de droit commun mais radicalisés islamistes. On a affaire à des individus dont le danger pour leurs collègues, si j'ose dire, de prison, est extrêmement élevé. Et donc, une approche scientifique, sociologique, ça, c'est extrêmement intéressant. Il faut toujours chercher à comprendre. Mais enfin, il faut surtout traiter de manière pragmatique la situation. Et ça suppose une organisation physique à l'intérieur des prisons qui permette ce que j'appelle cette double étanchéité par rapport aux autres détenus et par rapport assez détenus les uns par rapport aux autres.
Allez, on va, de toute façon, bien sûr, on continuera à en parler hein, tout au long de la semaine et au moment où, bien sûr, ce plan sera mis en œuvre. L'info à 20h20, Julie Smul.
Les températures vont continuer de baisser ce week-end en France. Conséquence, plan grand froid activé dans 37 départements. Des places d'hébergement d'urgence en plus et des maraudes renforcées. En Haute-Savoie, l'un des départements où il va faire le plus froid ces prochains jours, c'est la procédure froid extrême qui va être déclenchée à partir de dimanche. La préfecture déconseille aux enfants et aux personnes âgées de sortir de chez eux. La justice donne tort au préfet des Alpes-Maritimes. Ce soir, le tribunal administratif de Nice suspend le renvoi d'une vingtaine de mineurs africains isolés, des jeunes migrants arrivés seuls le week-end dernier à la gare de Menton et renvoyés aussitôt en Italie sur décision du préfet. Décision condamnée et dénoncée par plusieurs associations. Ils vont rester en détention provisoire en attendant leur procès prévu le 19 mars prochain. Deux opposants au projet d'enfouissement des déchets radioactifs arrêtés hier à Bure dans la Meuse. Ils devaient être jugés aujourd'hui par le tribunal de Bar-le-Duc pour rébellion et pour violence contre des gendarmes. Leur procès est renvoyé. Les Palestiniens dénoncent une provocation. Les États-Unis confirment aujourd'hui le déménagement de leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Transfert prévu au mois de mai, ce qui coïncide avec le 70e anniversaire d'Israël, précise un responsable américain. Et puis on attend dans quelques minutes la décision du Conseil de sécurité de l'ONU. Il doit statuer sur un cessez-le-feu d'un mois en Syrie, alors que le régime continue de bombarder la région rebelle de la Ghouta.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, elle est très jolie, avec ses yeux comme maquillés de colle, sa robe couleur de foin séché et ses formes pulpeuses. Elle aime poser à l'anguille sur l'herbe. Hein. Manet aurait pu la peindre dans une de ses siestes, mais elle a préféré s'offrir à nous. Son nom, c'est Haute. Voilà, et c'est une vache de l'Aubrac. C'est l'égérie, d'ailleurs, du Salon de l'Agriculture cette année, qu'on voit sur toutes les affiches annonçant la manifestation. Samedi, Emmanuel Macron lui tâtera la croupe hein, pour une belle photo, mais les têtes seront ailleurs. Ce salon s'ouvre sur fond de crise et de difficultés relationnelles entre le gouvernement et le monde agricole. Difficultés sociales, glyphosate, conversion au bio. Si on rajoute à cela les zones rurales en difficulté, notamment concernant le manque de professeurs dans certaines écoles, le déplacement de demain du président de la République risque d'être tendu, comme l'explique tout simplement Christiane Lambert, elle est présidente de la FNSEA.
Le salon de l'agriculture, pour les agriculteurs, c'est un moment particulier. C'est le moment de retrouvailles avec les Français. C'est un grand moment de communication et d'expression de ce qui va bien et de ce qui va pas bien. C'est le premier salon pour Emmanuel Macron. Donc il va être accueilli, bien sûr, poliment et respectueusement, mais de façon très directe. Il dit toujours qu'il aime le dialogue direct et le contact. Hier, il est venu au contact aussi pendant une heure des jeunes qu'il avait invités. Donc nous allons lui dire très clairement, les yeux dans les yeux, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va moins bien.
Voilà, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. Décidément, c'est l'habitude chez Jean-Jacques Bourdin, dire les yeux dans les yeux, je ne sais pas pourquoi. Louis Osalter, c'est un déplacement risqué politiquement pour Emmanuel Macron demain au sein de l'agriculture.
Oui, risqué politiquement, comme l'étaient aussi risqué politiquement les déplacements de François Hollande au salon de l'agriculture. Alors Emmanuel Macron a essayé de déminer le terrain, même s'il s'en est défendu en recevant effectivement quelques centaines d'agriculteurs à l'Élysée hier, en essayant de leur parler cash. Donc c'était un beau discours. Hein. Les agriculteurs en sortant disaient bah oui c'est pas mal en fait, ça nous va ce qu'il dit. Sauf que les actes ne sont pas là. Et ça les agriculteurs ils disent depuis des années et des années. Et tous les paris d'Emmanuel Macron, ils seront là, il devra résoudre plusieurs contradictions. Je pense notamment donc aux négociations qui ont lieu en ce moment entre le Mercosur, les pays d'Amérique du Sud, et l'Union européenne sur un accord de libre-échange. Donc les agriculteurs s'inquiètent légitimement d'importations massives de viande bovine qui viendraient leur faire concurrence à des normes inéquivalentes. Donc Emmanuel Macron, il doit faire un show là-dessus. Il y a également un plan Ambition Bio qu'il a lancé. Ça, c'est un défi pour l'agriculteur. C'est-à-dire comment on arrive à accompagner des agriculteurs pour vers l'agriculture biologique pour avoir faire cesser l'opposition entre transition écologique et agriculteur. Et là, le sujet du glyphosate revient évidemment sur la table, puisque si on décrète la fin du glyphosate, c'est forcément qu'il faut une transition derrière qui permette aux agriculteurs soit de ne plus utiliser ce genre de produits, soit d'en trouver d'autres. Il y a aussi...
Donc c'est difficile de trouver un en même temps, en effet, propre au président de la République. Il y a même des choses comme le plan loup, par exemple.
Il y a les relations commerciales avec la grande distribution, les états généraux de l'alimentation ont engagé une négociation là-dessus, qu'est-ce qu'ils vont en sortir ? Pour l'instant, tout est en suspens, en réalité, pour le président. Donc, évidemment que l'accueil va être tendu au sein de l'agriculture, évidemment aussi qu'il arrivera à faire des belles images et à serrer des mains, mais tout ça ne se jouera pas samedi, ça ne se jouera pas la semaine prochaine, ça se jouera dans les prochaines années.
Virginie Petit, c'est vrai qu'on voit quand même un monde agricole aujourd'hui, enfin là, j'ai une statistique qui est terrible, c'est quand même une précarité incroyable, c'est un agriculteur sur trois gagne moins de 354 euros par mois. Ça, c'est incroyable de voir ça. Et pourtant, on le voit avec quelle passion aussi ces gens défendent. On a l'impression que chaque président, à un moment, doit affronter cette réalité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est encore dans un vieux schéma par rapport à l'agriculture ?
Alors, ça, c'est ce que les Allemands disent. En l'occurrence, ils trouvent qu'on est un pays qui se croit encore une grande puissance agricole et qui n'a pas encore fait une transition. Mais bon, c'est la vision allemande des choses. Le fait est que oui, chaque président doit évidemment se confronter à ça parce qu'il y a un vrai souci sur une partie des agriculteurs qui sont leur propre chef d'entreprise. Enfin, voilà, ceux qui ne sont pas dans des très, très grandes exploitations. Et aussi parce que les Français sont extrêmement attachés à ce secteur et à ceux qu'ils font vivre. Et que donc, c'est pas seulement aux agriculteurs qu'ils s'adressent, c'est aussi à l'ensemble de la France. Donc ça, oui, c'est indispensable. Moi, ce qui m'étonne là-dessus, c'est que on parle, bon, alors du Mercosur, etc., on parle assez peu, je trouve, de toute la filière agroalimentaire et qui comprend les semenciers, les semenciers français aussi, et les entreprises de l'agroalimentaire. Et aujourd'hui, si on veut une agriculture moderne, en parallèle des circuits courts, il va falloir aussi quand même entamer quelque chose de plus systémique comme réflexion.
Guillaume Larrivé, c'est toujours difficile pour un président. Voilà, vous en avez connu un autre, vous, qui était Nicolas Sarkozy. Pour François Hollande aussi, c'est difficile. C'est toujours un moment quand même complexe. Ce salon de l'agriculture ?
C'est un beau rendez-vous public des Français avec leur agriculture. Bon, mais au-delà du symbole, et même si les symboles sont importants dans la vie collective de la nation, c'est un rendez-vous qui doit permettre une expression sur plusieurs sujets de fond. Moi, je vois deux sujets de fond sur lesquels il faut non seulement que le président s'exprime, mais surtout que le législateur décide, parce que je rappelle qu'on est dans une république où le législateur décide de beaucoup de choses. Heureusement, c'est pas que la parole présidentielle qui transforme le réel. Donc, le premier sujet, c'est les relations entre les producteurs et les distributeurs. Il est nécessaire qu'au mois d'avril, nous votions une loi qui permette de rééquilibrer, au fond, la répartition de la valeur. C'est absolument fondamental.
C'est un peu la tendance d'Emmanuel Macron, ça.
Je suis pas sûr qu'il faille se diviser. Au contraire, il faut se rassembler pour trouver une solution technique satisfaisante sur la répartition de la valeur entre producteurs et distributeurs. Et puis le deuxième sujet technique sur lequel il faut qu'on progresse très vite, c'est le sujet des normes.
Oui.
Je suis absolument convaincu qu'on doit trouver le moyen d'abaisser un certain nombre de normes nationales pour en aider s'aligner sur un certain nombre de normes européennes.
Alors,
on a trop de normes en France, les agriculteurs nous le disent, moi je le vois dans Lyon, chez les éleveurs notamment, il faut qu'on soit capable, pour le coup, d'alléger cette pression normative franco-française.
Alors on va continuer à en parler, dans un instant on parlera également des Républicains, puisque Laurent Wauquiez il sera au salon de l'agriculture comme tout le monde, c'est le grand rendez-vous, la grande messe. On parlera également d'Europe, le programme est chargé, mais c'est normal, on vous quitte après pendant deux jours, donc on en profite. Les informés de France Info, on revient dans quelques minutes.
Parions Sport.
Et voilà, c'est fait, 6-0.
Oui, 6 jolis zéros bien alignés après le chiffre 3 et qui donne un super pacte Lotofoot de 3 millions d'euros à gagner ce samedi.
Oh là là, que c'est beau!
3 millions, oui, c'est très beau.
Encore plus dans le match avec Parions Sport. Ce samedi, ne manquez pas le super pacte Lotofoot de 3 millions d'euros minimum. Montant à partager au rang 1, Lotofoot 15.
FDJ.
Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, après Noël, la Saint-Valentin et maintenant le ski, on se dit que vu le budget pour la suite, il va falloir faire des économies. Alors qu'est-ce qu'on fait? On active notre radar à bonnes affaires.
Ne cherchez pas plus loin. Jusqu'au 26 février, pendant les Happy Box Days de SFR, la box starter est à seulement 4,99€ par mois pendant 12 mois, puis 34,99€. Rendez-vous en magasin SFR.
Happy Box Days, les super jours de la box. Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux 25 000 premiers clients. Engagement 12 mois, location box offerte, frais d'ouverture de service 49€.
France Info Météo, avec VK, concepteur de fenêtres PVC, performantes et design, pour tous vos projets de construction et de rénovation. VK, VEKA.fr.
Et à Météo France, on retrouve Jean-Pierre Hameau.
Cette nuit, les températures vont chuter à la faveur des belles éclaircies nocturnes. On attend demain matin au lever du jour moins 4 degrés à Nancy, Lille et Reims, moins 3 à Brest, Orléans, ainsi que dans la capitale, moins 2 à Nantes, Dijon, Bordeaux et Auch, moins 1 à La Rochelle et Biarritz et 0 degrés à Perpignan. Ce sera plus doux sous les nuages dans le sud-est avec 5 degrés à Toulon et 7 à Nice. Demain, nous allons retrouver le même type de temps, froid, sec et ensoleillé dans la moitié nord du pays, des nuages bien inoffensifs dans la moitié sud et un temps très nuageux de la Corse à la région PACA avec de faibles chute de neige en Corse et dans les Alpes à partir de 800 mètres d'altitude. Les maximales afficheront 4 à 9 degrés en général et 9 à 12 degrés autour de la Grande Bleue.
France Info.
Deux points. Ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Augustin Rivé, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Les rugbymen français vont-ils enfin gagner un match? Ils jouent ce soir contre l'Italie, troisième journée du tournoi Destination. Vincent Pellegrini, vous êtes au stade Vélodrome. Alors face à l'Irlande, ils avaient manqué l'objectif d'un cheveu. En Écosse, ils avaient sombré en fin de match. Est-ce que ce soir, les Bleus auront les épaules assez solides?
Écoutez Augustin, il faudra avoir les épaules solides hein, pour résister à l'énorme pression qui pèse sur les épaules des joueurs du 15 de France hein, qui n'ont plus gagné un match, on le rappelle, depuis 11 mois, qui viennent de subir deux défaites et qui là jouent, on va le dire, pour éviter la dernière place hein, face à cette équipe d'Italie qui a subi deux lourdes défaites dans ce tournoi face à l'Irlande et face à l'Angleterre. Vous savez que Jacques Brunel a été obligé de beaucoup remodeler son équipe, c'est donc une équipe un petit peu expérimentale, surtout au niveau de la ligne de trois quarts. On a attend enfin une victoire pour ce 15 de France en plein doute hein, depuis déjà de longs mois, voire de longues années. C'est un match sous haute pression pour les Bleus dans un stade Vélodrome qui ne sera pas plein, mais il y aura quand même un peu plus de 50 000 spectateurs pour ce match, le premier du tournoi organisé hors de la région parisienne.
Merci Vincent Pellegrini et le coup d'envoi, c'est à 21h. Il y a du football également, ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Strasbourg contre Montpellier, là c'est dans moins d'un quart d'heure à 20h45. 28 supporters de foot ont été interpellés cet après-midi à Tours. Le club de la ville accueille ce soir Orléans, 27e journée de Ligue 2. Une bagarre a éclaté avant le match dans un fast-food. La route des sports d'hiver, compliquée demain. Bison Futé prévoit du noir dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes, rouge pour les retours. Le tout dans un froid glacial. Dès dimanche, le département de la Haute-Savoie sera le premier à activer le niveau maximal du plan grand froid. Avec ce conseil pour les plus jeunes et les plus âgés, évitez tout simplement de sortir de chez vous. Emmanuel Macron se dit confiant temps avant le vote ce soir du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président français persuadé d'avoir pu, avec Angela Merkel, convaincre la Russie sur la nécessité d'un cessez-le-feu en Ghouta orientale. L'enclave rebelle près de Damas est toujours bombardée par le régime syrien. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a encore compté au moins 38 morts civiles ce vendredi. Un homme de 32 ans mis en examen et écroué ce soir. Il a été arrêté à Albi en début de semaine, soupçonné d'être lié aux auteurs des attentats de Catalogne, attaque qui remonte à l'été dernier. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs terroristes criminels. La centrale nucléaire de Fessenheim va reprendre une activité normale. Une partie du personnel était en grève depuis lundi. Les syndicats ont levé ce mouvement aujourd'hui en attendant les réponses de la direction promise pour le 12 mars. Syndicats qui s'inquiètent de l'accompagnement des salariés en vue de la fermeture des réacteurs. Ce sera à la fin de l'année. 20h33 sur France Info, la suite des informés avec Jean-Mathieu Pernin.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils sont en haut du plongeoir, penchés vers le week-end, mais le grand saut, c'est dans une demi-heure. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Louis Osalter de Marianne, le député Les Républicains de Lyon, Guillaume Larrivé, Virginie Petit de Courrier International, et également Rodrigue Tchoual, avocat et cofondateur du Cercle EB. Alors avec vous, justement, Rodrigue Tchoual, je voulais revenir sur le salon de l'agriculture, je vous avais pas donné la parole. Pour vous, est-ce que c'est un rendez-vous toujours important? Est-ce que c'est finalement un rendez-vous de com' pour les politiques, ou vous y voyez vraiment un moment où on peut faire le point sur la situation agricole, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a quand même un petit côté précaire, voire désespéré chez certains agriculteurs?
Alors, j'entendais tout à l'heure que c'était un rendez-vous très risqué pour le président de la République. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit un rendez-vous très risqué pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il a assez clairement déjà anticipé le fait que ce moment allait être un moment qui n'allait pas être évident. Donc il a tenu un discours il y a quelques jours devant les jeunes agriculteurs, qui était clair, où il a martelé qu'il n'était pas là pour plaire mais pour faire. Donc je pense pas que ce soit un moment compliqué, je pense que c'est un moment de vérité. Il y a un certain nombre, ça a été rappelé, mais il y a un certain nombre de mesures, notamment l'équilibrage entre pour les contrats entre les agriculteurs et les distributeurs. Il y a un certain nombre de sujets qu'il a lancés et qui sont en cours et dont on ne verra pas les fruits demain, après-demain, comme disait mon collègue. C'est une politique qu'on mène sur plusieurs années. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites, beaucoup de choses qu'il essaie de faire, notamment la transition écologique pour cette filière. Après, qu'il soit jugé demain sur le mécontentement ambiant, parce qu'il y a énormément de sujets d'insatisfaction, c'est le boulot d'un politique. Alors, je pense.
Guillaume Larrivé.
Il y a une mesure à la fois agricole et sociale qui est tout à fait urgente, qui serait une revalorisation des toutes petites retraites agricoles. Ouais. Je le dis vraiment comme député de la Puisée en Bourgogne. Moi, je connais, comme tous mes collègues sur le terrain, des cas qui véritablement sont terribles humainement. Quoi. Vous avez notamment des veuves d'agriculteurs qui vivent avec 400-500 euros par mois. Quoi.
Il y a une chose qui m'est arrivée, je voulais vous montrer un sondage, parce qu'on a vu les Républicains à l'offensive sur les préoccupations du monde rural. Et pourtant, alors vous savez, le vendredi, on se fait toujours un petit sondage à France Info avec Odoxa, et on a demandé aux Français qu'ils ne donnaient pas beaucoup de crédit à nos politiques concernant le sujet de l'agriculture. Pourtant, pour eux, l'homme politique qui serait le plus proche des préoccupations des zones rurales, eh bien, c'est Jean-Luc Mélenchon, suivi de Marine Le Pen, suivi ensuite par Emmanuel Macron, et Laurent Wauquiez, lui, arrive en dernier avec seulement 15%. Guillaume Larrivé, comment ça se fait? Pourtant, on se dit, Laurent Wauquiez qui nous parle tout le temps du monde rural, de la ruralité, on n'a pas l'impression que ça imprime?
Franchement, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que moi, je suis député élu par habitants de territoires ruraux. Et je constate d'ailleurs que les 100 députés Les Républicains, on a souvent été élus, contrairement aux députés En Marche, enfin, sauf exception, plutôt dans les campagnes. Quand vous regardez la carte électorale du mois de juin, vous constatez que Emmanuel Macron a été porté par les métropoles, et qu'au contraire, ce que le sociologue Christophe Julie avait appelé la France périphérique, mais qui est pour moi le cœur battant de la nation, cette France périphérique, elle a plutôt résister au macronisme à la mode et elle a permis de conduire à l'Assemblée nationale une centaine de députés républicains.
Louis Osalter, on voit quand même Laurent Wauquiez, qui nous parle tout le temps de presque pastoralisme, qui n'est pas apparemment, pour les Français interrogés, l'homme politique qui serait le plus proche, mais on voit quand même des Français qui n'imaginent pas tellement les hommes politiques aujourd'hui de premier plan proches de ce monde-là.
Non,
j'ai l'impression qu'il y a un décrochage voilà, de... On voit Marine Le Pen et Emmanuel Macron côte à côte, d'ailleurs.
Il y a un décrochage de façon générale et qui est assez intéressant quand vous analysez certains travaux de politologues et de sondeurs, qui est le sujet de la France d'en bas et de la France d'en haut. On l'a beaucoup retrouvé pendant l'élection présidentielle, notamment dans l'entre-deux-tours, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron incarnerait la France des métropoles, la France qui réussit, la France qui va bien, la France des premiers de cordée, comme il les appelle lui-même. Et Marine Le Pen aurait incarné la France périphérique de Christophe Guilly, la France qui va mal, la France qui se sent reléguée. Ce qui est vrai, j'avais été un petit peu estompé par la suite de l'élection présidentielle parce que personne n'arrivait à incarner une véritable opposition à Emmanuel Macron, qui du coup prenait tout l'espace médiatique, politique. Mais du coup, l'effet pervers, c'est qu'on n'entendait plus en réalité la France d'en bas, qui ne se retrouvait pas spécialement dans ce président qu'on appelait le président des métropoles, ouais, le président des riches, comme vous voulez. En fait, cette France d'en bas n'a pas disparu. Elle n'a pas disparu par la magie jupitérienne du macronisme. En réalité, elle est toujours là. C'est juste qu'elle est, non seulement elle est dégoûtée de la politique pour une grande partie, lassée aussi par une période électorale qui a été très longue. Donc elle disparaît des radars, mais il ne faut pas l'oublier. En réalité, elle est toujours là. Et d'après les sondages, elle ne se retrouve pas en Emmanuel Macron, et d'autant moins en ce moment que des mesures qui ont impacté le pouvoir d'achat l'ont fait souffrir. Il y a aussi évidemment la mesure des 80 km/h. Il y a toute une panoplie de mesures qui sont mal ressenties dans cette France-là, mais il y a un déficit de représentation. Effectivement, il n'y a pas d'hommes, de femmes politiques qui aujourd'hui l'incarnent.
Intéressant, Virgile Petit, c'est que ce clivage, on le retrouve partout. Quand on se souvient, il y a un peu plus d'un an de l'élection de Donald Trump, c'était exactement ça sur ces zones justement sur lesquelles il avait joué.
Oui, il avait joué sur
le déclassement, justement.
Il avait joué sur le déclassement. Alors, c'est des zones rurales, effectivement, des agriculteurs et surtout et aussi les mineurs qui sont encore présents aux États-Unis, beaucoup moins en France, hein, évidemment. Voilà.
Bien sûr,
il avait joué sur ce déclassement. Il avait joué sur pas mal de peur également. Mais là, justement, c'est exactement ce que vous disiez. Ce qui me frappe dans le sondage, au-delà des différences entre les quatre hommes et femmes politiques, ce qui est frappant, c'est qu'en fait, aucun ne représente le monde agricole.
C'est ça, voilà,
aucun.
C'est...
Même Jean-Luc Mélenchon, qui est le premier, il est le premier des derniers, finalement. Mm. Donc, en France, il n'y a pas eu cet
attachement, finalement. Voilà. Et alors, je rappelle juste les scores, parce qu'au premier tour, le monde agricole a majoritairement voté pour François Fillon à 41%, puis Marine Le Pen, puis Emmanuel Macron. Guillaume Larrivé.
Le vrai sujet, ce n'est pas un sujet de positionnement politique ou de code d'amour de telle ou telle personnalité. Tout ça est complètement secondaire. Le vrai sujet, c'est le fond. Mmh. Et le fond, c'est la nécessité d'engager ce que j'appelle, moi, la réunification territoriale. Mmh. C'est-à-dire, précisément, moi, je crois profondément, parce que je suis patriote, je suis pour l'unité de la France. La France, ça ne doit pas être quelque chose comme un manteau d'Arlequin avec des métropoles qui réussiraient, des enclaves communautaristes plus ou moins ghettoisées qui ne réussiraient pas du tout, et puis une espèce de no man's land périphérique, de territoires ruraux qui décrocheraient. Et donc, on doit mettre de la politique publique très concrète en termes d'écoles, en termes d'équipements publics, en termes de maisons de santé pour lutter contre la désertification médicale, en termes de mobilité, tout le débat sur les TER. Enfin, ce sont des sujets passionnants d'aménagement du territoire. Nos prédécesseurs, il y a bien longtemps, à l'époque de Gaulle et de Pompidou, avaient su définir une politique d'aménagement du territoire. À nous, avec les moyens d'aujourd'hui, d'inventer une vraie politique de développement et d'équilibre territoires. Ce ne sont pas des mots, c'est vraiment la réalité que je vis tous les jours.
Alors, on va parler par contre un petit peu de politique dans un instant, et Virginie, je vous donnerai la parole juste dans un instant. L'info à 20h40, Julie Smul.
Sixième jour de bombardement du régime syrien sur la région rebelle de la Ghouta. Déjà plus de 460 morts, situation de crise. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en ce moment pour voter un cessez-le-feu. La Russie pourrait utiliser son droit de veto. Angela Merkel et Emmanuel Macron ont écrit à Vladimir Poutine aujourd'hui pour lui demander d'approuver cette résolution. Au moins 18 morts et une vingtaine de blessés après ces deux attentats à Mogadiscio. Deux explosions visant aujourd'hui le palais présidentiel et un hôtel dans la capitale somalienne. L'un des trois hommes arrêtés cette semaine dans le sud de la France, mis en examen ce soir pour association de malfaiteurs terroristes. Il est soupçonné d'avoir des liens avec l'un des auteurs des attentats de Catalogne l'été dernier. Il est placé en détention provisoire. Les deux autres sont sortis aujourd'hui de garde à vue. Une soixantaine de mesures pour lutter contre la radicalisation en France. Plan présenté aujourd'hui par Édouard Philippe. Parmi les mesures, des quartiers aménagés dans les prisons françaises. française pour les détenus radicalisés. 1500 places de prison en plus, des contrôles renforcés aussi dans les écoles hors contrat et dans les clubs de sport. Du rugby pour la première fois ce soir au stade Vélodrome de Marseille. Troisième match des Bleus dans ce tournoi destination. C'est contre l'Italie. Le 15 de France doit gagner après presque un an sans victoire. Coup d'envoi dans 20 minutes à 21h.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors, il y a une semaine pile, le week-end s'annonçait des plus classiques pour les élus et militants du parti Les Républicains. Certains d'entre eux se sont dit, tiens, allez, on va se faire une petite folie, on va regarder Quotidien, présenté par Yann Barthès. Je dis pas trop, mais j'aime bien, en fait. Et la stupéfaction, en entendant des propos tenus par Laurent Wauquiez lors de cours donnés à l'EM Lyon. Hein. Même le Nicolas Sarkozy en peluche n'arrivait pas à consoler le militant, un peu déboussolé. Alors, fracas, colère, Laurent Wauquiez s'explique. Certains ont décidé de quitter le parti. Parmi les plus connus, l'ex-ministre Dominique Bussereau, aujourd'hui la sénatrice Fabienne Keller et d'autres ont claqué la porte. Alors certains en profitent et mettent au défi l'homme qui parle donc de bullshit comme l'intéressé. Mais ça se voit si peu, d'ailleurs on va le voir. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France.
Si on veut un jour battre Macron, éviter la destruction de notre pays, moi je vois que les électeurs républicains, Debout la France, Front National, veulent l'union des hommes politiques de droite et des patriotes.
Mais vous lui dites
et
quoi
sur un programme.
Travaillons ensemble.
Travaillons ensemble sur un programme et arrêtons les gamineries. Il faut bâtir un programme d'union avec les électeurs du Front National, des Républicains, de Debout la France, et ce sera le seul moyen de battre l'imposture, la comédie, la communication d'un pouvoir de propagande de Monsieur Macron.
Voilà Nicolas Dupont-Aignan ce matin sur RTL. Rodrigue Choual, quand vous entendez Nicolas Dupont-Aignan.
Ça me fait doucement sourire parce que ça fait des années qu'on constate une forme de porosité idéologique et verbale entre le Front National et les Républicains, notamment les Républicains de Monsieur Wauquiez maintenant. Au fond, c'est assez logique qu'à un moment, il y ait une ambition de construire un bloc à droite réactionnaire qui irait peut-être, parce que c'est ce qu'on entend dans cette proposition, après on verra ce que répondra le président des Républicains, mais qui irait de Monsieur Dupont-Aignan aux Républicains en passant par le Front National.
Guillaume Larrivé, quand vous entendez cette proposition de Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que vous trouvez ça intéressant ou vous la rejetez complètement ou au contraire vous dites pourquoi pas?
Mais il n'en est pas question. Voilà. Il s'exprime librement, il dit ce qu'il veut, et nous traçons notre ligne. Et notre ligne, ça consiste, en 2018, à travailler sur un projet de la droite républicaine française. Moi, c'est le seul sujet qui m'intéresse, d'ailleurs, c'est pas le commentaire. Je vais vous parler très directement.
Bien sûr.
Je trouve pas que la semaine qui se soit écoulée était optimale. Bon, on se serait passé de cet épisode, mais je pense que maintenant la parenthèse est fermée. On va retrouver l'essentiel, c'est-à-dire le travail de fond. Il faut qu'on soit en initiative sur le fond. Tout à l'heure, Emmanuel Macron concluait une réunion informelle des chefs d'État et de gouvernement. Il faut que nous, les Républicains, on évoque les questions européennes de manière hyper sérieuse. Qu'est-ce qu'on fait en vrai pour bâtir un projet européen sur l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'on fait en vrai pour bâtir un projet européen en matière de sécurité? Qu'est-ce qu'on fait en vrai pour bâtir un projet européen agricole?
Il y a quand même des gens qui quittent le parti aujourd'hui.
Oui, alors, sur ces départs, il y a des départs, effectivement. Oui. Je pense qu'il y a des départs de deux natures depuis le mois de juin, en réalité. Premièrement, il y a une génération qui parfois a décidé d'arrêter. Et pourquoi pas? Alain Juppé, lorsqu'il avait mon âge, il n'a pas rebâti la droite avec Maurice Couve de Murville. C'était une autre génération et tout ça, c'est normal. François Mitterrand, quand il a rebâti la gauche après 58, il n'a pas bâti la gauche avec Guy Mollet, avec ceux d'avant. Et donc nous, on ne va pas rebâtir la droite avec, par exemple, Alain Juppé qui était Premier ministre il y a 25 ans. C'est comme ça, c'est un fait. Bon. Et la deuxième source de départ, ce sont des départs avec des désaccords avec un nombre de personnes qui ont été sur des personnalités centristes. Voilà. Et moi, ma position personnelle, c'est de penser qu'il faut une droite qui, certes, soit de droite, mais une droite, je le dis, qui reste alliée avec le centre. Hein. Et ça sera un défi.
C'est compliqué, apparemment, là, pour l'instant. Non,
précisément, je vous dis, aujourd'hui, on n'y est pas. Moi, je suis convaincu qu'il faut reconstruire la droite et que la droite a la vocation à gouverner avec le centre droit. Je vous le dis, c'est ma position.
Bien sûr. Rodrigue Choual.
C'est très intéressant de vous entendre, monsieur Larrivé, et sur ce sujet, lorsqu'on regarde dans les faits le positionnement de M. Wauquiez depuis des mois. que ce soit durant sa campagne pour la présidence des Républicains et que ce soit dans ses discours, même si on n'a pas besoin de revenir effectivement sur l'épisode fâcheux. Mais il y a réellement, c'est pas simplement une question de personne, et ces départs ne sont pas uniquement des questions de personne, c'est une question d'idéologie, c'est une question de conception de ce qu'est la droite française dans ce pays et vers quoi elle doit tendre. Vous parlez de gouverner avec le centre. Est-ce que réellement, aujourd'hui, ce serait plus cohérent de voir M. Wauquiez, dans les propos et dans l'idéologie qu'il développe depuis des mois, gouverner avec le centre, ou plutôt un peu plus à droite? Et ça, je pense
répondu,
que cette question...
Rodrigue, je crois, répondu. Ma conviction, et je m'exprime librement, je suis la porte-parole de personne, ma conviction, c'est qu'il faut que la droite s'assume comme telle et qu'on ait toujours un programme de gouvernement avec le centre. Mais c'est la droite et le centre. C'est pas le centre avec le centre. C'est ça la nuance. Donc moi, je suis pour une droite de droite, mais il faut donner un contenu à cela. Et 2018, 2019, 2020, 2021, ça nous laisse 4 ans, en réalité, pour tout rebâtir. On part d'un champ de ruines, quand même. Hein. Alors, le printemps 2017, ça a été le champ de ruines.
On en parlera dans un instant, mais... Pour vous, il faudrait peut-être accélérer parce qu'il y a des élections dans un an. Je vous le dis, les élections
en juin 2019. Voilà,
c'est ça, je vous le dis. Virginie Petit, oui, quand vous entendez justement ce discours?
C'est une stratégie qui a été suivie par d'autres leaders de droite en Europe. Il y a eu Sébastien Kurz en Autriche, Theresa May qui est quand même aussi au Royaume-Uni, à Mark Rutte aux Pays-Bas, avec plus de succès électoraux, mais qui partait aussi de moins loin, hein, sans doute.
Succès électoral très relatif de Theresa May, si je puis dire.
Oui, mais enfin bon, elle est quand même au pouvoir. Pardon, ouais, c'est quand sûr, même, c'est fondamental. Ouais. Voilà, pourquoi pas, mais cela dit, ça se rapproche quand même, et ça c'est un constat quand même qui est général et qui, depuis l'étranger, est aussi général, ça se rapproche énormément de l'extrême droite.
Alors, Louis Osalter, c'est pas de réécouter, on en a parlé toute la semaine, il y a eu des excuses de Laurent Wauquiez, des explications de Laurent Wauquiez, ça laisse tout de même, on le voit quand même, des traces. On va écouter d'ailleurs ce qu'a dit Valérie Pécresse hier, sur RTL. Valérie Pécresse, vous allez l'entendre, elle est restée aux Républicains, elle n'est pas comme Xavier Bertrand ailleurs, et voilà ce qu'elle a déclaré à propos, quand Laurent Wauquiez disait lorsqu'on l'a enregistré dans ses cours de l'EM Lyon, il disait que Valérie Pécresse, je le cite, le président des Républicains, faisait des conneries dans ses divers postes qu'elle a pu occuper, ministre ou présidente de région Île-de-France. Voilà ce que lui a répondu Valérie Pécresse.
J'aimerais bien, moi aussi, faire de l'humour sur les réformes que Laurent Wauquiez a fait au gouvernement. Mais malheureusement, j'ai bien cherché, j'en ai pas trouvé.
Voilà, donc Valérie Pécresse hier sur RTL. Et elle est aux Républicains. C'est que ça semble quand même compliqué, non, de vivre ensemble, de cohabiter, non?
On l'a déjà connu, vous savez. En plus, il y a eu des duels à droite qui ont été infiniment plus violents. Je pense à Chirac-Balladur. Et en fait, le dernier duel de ce type-là qu'on a eu à droite entre un dirigeant, un leader qui tient le parti, qui dit qu'il veut une droite vraiment de droite sans qu'on sache vraiment ce qu'il y a derrière, et quelqu'un qui est membre du parti mais qui n'est pas à la tête du parti et qui se veut l'incarnation d'une droite plus modérée, plus centriste, c'était le duel Sarkozy-Juppé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a raconté l'histoire du duel Sarkozy-Juppé pendant 2 ans, et à la fin c'est François Fillon qui a gagné au terme d'une primaire, et à la fin François Fillon a perdu la présidentielle. Donc si la droite continue à s'engager dans ce genre de duel, c'est peut-être pas la meilleure façon de préparer l'après-Macron comme il le souhaite.
Guillaume Larrivé.
Je vais vous dire une chose à votre antenne en toute liberté. Ouais. Moi-même et d'autres, nous ne laisserons pas nos aînés reproduire des guéguerres de cours de récréation du genre Copé-Fillon. Hein. À bon entendeur, salut. Et je dis ça notamment, y compris à la présidente de la région Île-de-France. Hein. Le bac à sable, c'est fini. Hein. Notre génération, on n'a pas envie de ça. On a envie de solutions concrètes proposées aux Français.
Très bien, c'est entendu. En tout cas, l'info à 20h50, c'est Julie Smul.
Le Conseil de sécurité de l'ONU réunit en ce moment pour décider d'un cessez-le-feu en Syrie. Les bombes continuent de tomber sur la région rebelle de la Ghouta. Plus de 460 personnes sont mortes en moins d'une semaine. Une vague de froid annoncée à partir de dimanche en France. Conséquence, la pollution. Procédure d'alerte déclenchée dans les Hauts-de-France et le Loiret. Ça veut dire des limitations de vitesse abaissées de 20 km/h sur les autoroutes et sur les voies rapides. Et puis face à cette baisse des températures, 37 départements activent leur plan grand froid, plan qui prévoit des places d'hébergement d'urgence en plus, des maraudes renforcées et les accueils de jour et de nuit ouverts plus longtemps. Près de 9 personnes interrogées sur 10 ont une bonne opinion des agriculteurs. Résultat de notre sondage au Doxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. 2/3 des personnes qui ont répondu affirment également ne pas faire confiance au gouvernement pour défendre l'agriculture, alors que le salon de la profession ouvre ses portes au public demain matin. matin à Paris. Le coup d'envoi, il y a 5 minutes du premier match de cette 27e journée de Ligue 1, c'est Strasbourg qui reçoit Montpellier. Et puis en Ligue 2, Orléans affronte Tours ce soir. Un match sous haute tension, les supporters des deux clubs se sont donné rendez-vous dans le centre-ville de Tours. Une bagarre générale a éclaté, des dizaines de policiers sont intervenus, 28 supporters ont été arrêtés.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, pour terminer cette émission, on aurait pu parler de cette information incroyable, moi, que j'ai reçue hier soir sur mon smartphone, que Emmanuel Macron allait interpréter le conte Pierre et le Loup jeudi prochain à l'Élysée devant des enfants. Mais bon, voilà, tout est normal, hein, c'est la vie politique.
Un mot quand même.
Vous n'aimez pas Pierre le Loup.
Pierre le Loup, j'ai rien contre, mais enfin, l'idée que le président de la République, en son palais de l'Élysée, décide de jouer une pièce de théâtre. Enfin,
je sais qu'il va être le narrateur, mais tout de même.
Enfin, on atteint quand même des sommets de la dérive narcissique, enfin, c'est vraiment le roi en son palais. Ça me rappelle le film Le Roi danse, vous savez.
Ah bah peut-être qu'il dansera. D'ailleurs maintenant, on l'attend. Hein, voilà, en tout cas, danser avec les stars. Peut-être Emmanuel Macron. Non, en fait, je voulais parler, voilà, d'une chose, voilà, qui va vous intéresser si il vient d'arriver. C'est sur l'Europe. On voit Emmanuel Macron aujourd'hui qui était à un sommet, hein, sur l'Union européenne pour parler post-Brexit, mais il a autre chose en tête en ce moment, Emmanuel Macron, puisqu'il pense énormément aux élections européennes de 2019. Et d'ailleurs, on a appris aujourd'hui que ça y est, c'est fait. Il a lancé donc ses consultations citoyennes. C'est-à-dire de discuter de l'Europe à travers les différents pays, donc les 27 pays européens. Louis Osalter, faire ça, ça veut dire quoi ? Qu'il veut reprendre le lead dessus ? Il y avait une interview aujourd'hui dans Le Parisien d'un député européen qui disait « c'est pas la même chose, attention, l'Europe, c'est 27 pays, c'est pas un pays ».
Oui, Emmanuel Macron, il est un peu arrivé par effraction, comme il a dit lui-même à l'élection présidentielle. L'Europe, le problème, c'est que c'est encore plus compliqué d'arriver par effraction. Il y a évidemment un système politique très installé entre l'exécutif et avec le Parlement européen. Et là, tout le problème d'Emmanuel Macron, c'est de choisir sa piste d'atterrissage. Le parti majoritaire au Parlement européen depuis longtemps, c'est le PPE, le Parti populaire européen, qui est le parti de la droite modérée, voilà, libérale, et qui, du coup, en toute logique, le futur président de la Commission européenne devra être issu des rangs de ce parti. C'est le système du Spitzenkandidat. Alors, soit il y a ce parti-là, mais ça ne correspond pas. Si Emmanuel Macron viendrait choisir cette piste d'atterrissage ou, par exemple, les socialistes et démocrates européens, ce ne serait pas du ni droite ni gauche. Donc, en réalité, il doit composer avec ce paysage politique européen qui n'est pas exactement le même qu'en France, avec le système politique européen qui ne fonctionne pas du tout de la même façon qu'en France. Emmanuel Macron, il avait gagné la présidentielle sur sa personnalité, sauf que dans les couloirs du Parlement européen et de Bruxelles, c'est de la négociation, c'est trouver une piste d'atterrissage politique. Il a envoyé ses éclaireurs, mais ça ne s'annonce pas simple.
Virginie Petit, comment il est vu aujourd'hui Emmanuel Macron avec ses idées justement sur faut révolutionner le scrutin européen, faut changer En Marche. On sent que les Allemands, là, en ce moment, ils sont plus trop sous le charme, en fait.
Il y a eu quand même une lune de miel, hein, avec les Allemands. La presse allemande était dithyrambique. En plus, c'était le moment où Angela Merkel était en difficulté. Donc, on a parlé d'éclipse. Enfin, vraiment, c'était assez. Et là, effectivement, d'abord, les Allemands, pour parler d'eux, se sont intéressés à autre chose, et notamment à la politique intérieure. Hein, puis ils avaient quand même fort à faire sur la composition du gouvernement. Et effectivement, il a semé un peu la pagaille aussi en partant auprès des membres du groupe de Visegrad, ces pays de l'Est, qui eux ont une politique totalement différente, et en tenant des discours assez provoquant, on va dire, là-bas. Donc, il ne fait pas l'unanimité et ça risque d'être compliqué. Effectivement, compliqué de composer avec, d'un côté, les États membres et, de l'autre, le Parlement. Et c'est pas du tout la même chose. Donc, ça, c'est...
Alors, Guillaume Larrivé, comment, finalement, qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui sur l'Europe d'Emmanuel Macron?
Alors, juste un mot quand même pour souligner que Emmanuel Macron vient d'échouer à convaincre nos partenaires des deux réformes qu'il proposait. Il proposait d'abord qu'on crée des listes transnationales, c'est-à-dire qu'on élise des députés de Berlin à Chypre, en passant par Porto. Et en réalité, ça ne sera pas ça du tout. Ce sera des listes nationales. Les citoyens français éliront des citoyens français comme députés français au Parlement européen, ce qui me paraît tout à fait raisonnable. Premier échec. Et deuxième échec, il voulait aussi éviter ce qu'on appelle dans le langage de Bruxelles le Spitzenkandidat. Alors, dit comme ça, ça veut rien dire, mais enfin, c'est l'idée que c'est le parti politique arrivé en tête qui va désigner le président de la Commission européenne. Et c'est assez curieux, en réalité, qu'Emmanuel Macron se soit mis dans cette situation, parce que c'est profondément démocratique, en réalité, le système actuel. Ça veut dire que les Français, s'ils élisent des députés républicains, nous, on est affiliés au Parti populaire européen, ben, le président de la Commission européenne, il sera du Parti populaire européen, c'est profondément démocratique. Et ouais. Emmanuel Macron a échoué à convaincre ses partenaires de revenir sur ce principe. Alors, ce qui nous différencie, donc, je réponds à votre question.
Mais donc, ça veut dire que s'il gagne les élections européennes, Emmanuel Macron, il serait non inscrit, alors ?
Ben, pour l'instant, il est un peu tout seul, parce qu'il essaie de dire au Parti socialiste européen qu'il est un peu comme eux, mais pas vraiment. Il essaie de dire au Parti populaire européen, dirigé par Manfred Weber, qu'il est un peu comme eux, mais pas vraiment. Mmh. Très concrètement, il y a quelques jours, on a reçu le président du Bundestag, M. Schäuble, à l'Assemblée nationale, et M. Schäuble, il travaille d'abord avec nous, les Républicains.
Bon, en tout cas, c'est à suivre. Désolé, Rodrigo, on a un petit peu en retard. Ouais. En tout cas, vous reviendrez avec plaisir. Merci, en tout cas, d'être passé ce soir aux Informés de France Info. Merci, Guillaume Larrivé. La une de Quoi International, Virginie Petit.
C'est sur la santé, les systèmes de santé mondiaux et la prééminence du privé. Comment les patients font pour se soigner, et notamment via les réseaux sociaux et le crowdfunding.
Et la une préférée, donc, de Guillaume Larrivé, donc, cette semaine, Marianne.
Une affreuse de Marianne.
Qui est l'affreux,
la une
qui
affreuse
fait du gros rouge
de Marianne.
Du gros rouge qui tâche. Et ben nous, on décrypte ce qui se passe. Pourquoi il fait ça?
Voilà. Il paraît que Valérie Pécresse a beaucoup aimé. Voilà, enfin, c'est ce qu'on me dit dans l'oreillette. Je ne sais pas.
Je n'ai pas cette information.
Allez,
vive la liberté de la presse, même si la lune est affreuse.
Allez, il est temps de retrouver Olivier Delaya. Bonsoir, Olivier.
Bonsoir, Jean-Mathieu.
Pour Toutes les politiques au programme ce soir.
Une seule question, finalement. Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, en 2018, en France, être agriculteur et être bien dans sa peau? Salon de l'agriculture oblige. On va se pencher sur l'agriculture française pendant une heure dans Toutes les politiques. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes.
Et oui, dans quelques minutes, Toutes les politiques, et bien c'est même dans quelques instants à suivre sur France Info.